Vous écoutez France Culture.
Grands écrivains, grandes conférences. Philippe Garbi, Clotilde Pivin. Cette semaine, les classiques. Bonjour. Une conférencière, un conférencier, c'est parfois une écrivaine ou un écrivain, parfois une universitaire ou un universitaire, et parfois aussi une comédienne ou un comédien. Aujourd'hui, deux comédiens nous accompagneront, un comédien et une comédienne. De Molière, il sera question, de deux pièces de Molière, ils parleront, tout d'abord de Don Juan, ensuite des Précieuses Ridicules. Don Juan, c'est Louis Jouvet qui venait en parler lors d'une conférence donnée dans le cadre de l'Université des Annales. Le Don Juan de Molière, donc, l'un des 150 Don Juan créés depuis le XVIIe siècle, et alors très peu joué, ce qui peut nous sembler aujourd'hui plus qu'étonnant. On était à quelques jours de la première, à l'Athénée, et Louis Jouvet défendait cette pièce qui avait eu tant de détracteurs. Une pièce véritable n'est rien d'autre qu'une nécessité interne pour celui qui l'écrit, une impérieuse délivrance pour celui qui est soudain hanté par une idée ou un sentiment dramatique, disait Louis Jouvet. Après Don Juan, ce sera Les Précieuses Ridicules dans l'art du comédien, leçon d'interprétation donnée par Madame Simone. C'est pas mal ce que vous faites, dit-elle pour commencer, mais c'est loin de la perfection. Et la comédienne est le comédien d'acquiescer et de vouloir faire mieux. Don Juan, donc. Fin 1947. Entrée en scène, du moins à la tribune, de Louis Jouvet. Molière, donc, mais il sera aussi question des prédécesseurs. Conférence des Annales, Don Juan, par Louis Jouvet. Première diffusion sur la chaîne nationale le 19 décembre 1947. Tout sautement si personnel et talentueux du maître compris.
Dans le cadre des Annales, avant sa présentation de Don Juan de Molière, Louis Jouvet a expliqué au public pourquoi il a créé Don Juan. Jouvet ne donne ni raison ni excuse. Il trace un historique des Don Juan. Il en existe quelques 150 depuis le XVIIe siècle. Mais le Don Juan de Molière, pour curieux que cela puisse paraître, n'a presque jamais été joué. Molière s'y attaque pourtant à un sujet grave, du salut ou de la damnation de l'être. Don Juan est un personnage tragique, désespéré, qui cherche en vain l'absolu. On pourrait répartir les êtres humains en deux catégories, les Don Juan et les Don Quichotte. Les uns et les autres ne revêtent que des formes différentes du désespoir. Je vais vous laisser entendre Jouvet. Il a coutume d'être un conférencier aussi intelligent que minutieusement documenté. Dès les premiers mots, vous allez le reconnaître. L'homme, le comédien, avec sa densité mordante. On dirait que lui aussi, même dans une salle de conférence, est prisonnier de son personnage.
Baissez la lampe, ah, pardon. Mesdames, messieurs, pendant presque un demi-siècle, Madame Brisson a recueilli une somme importante de révélations et de réflexions. Pour provoquer les confessions publiques de ses conférences, pour nous amener à ses réunions, elle savait créer un climat de bienveillance qui forçait les plus rebelles et les plus secrets d'entre nous. Il était aisé et simple auprès d'elle de proclamer desseins et ambitions, doutes et convictions. Les moments qui précédaient les réunions des Annales était rempli d'amitié, une curiosité enjouée et volontairement ingénue, une vivacité chaleureuse enveloppait et persuadait, chacun emportait l'impression qu'il savait penser, conférencier ou écouter. Véritable inspiratrice de notre époque, Madame Brisson, par les confidences qu'elle a rassemblées, vient de constituer les archives de notre époque. Elles rivaliseront avec les mémoires les plus intéressantes et les chroniques les plus pénétrantes de notre histoire. Madame Brisson, en 40 années, vient d'écrire une nouvelle défense et illustration de la langue et de la pensée française. Elle a appelé M. Francis Ambrière pour conduire à son tour les annales, et l'arrivée de ce nouveau directeur me réjouit parce qu'une amitié sincère m'attache à lui. Mais l'art avec lequel Mme Brisson présidait à nos réunions s'est trouvé insensiblement modifié. M. Francis Ambrière s'approche aujourd'hui du conférencier comme une sorte de piégeur. Je dois dire à la vérité qu'il ne s'en cache pas, il m'a piégé. Se prévalant de la cordialité de nos relations, sans préambule ni circonlocution, il a posé à brûle-pourpoint sur ma poitrine le pistolet de sa question « Pourquoi avez-vous monté Don Juan ?» Pourquoi j'ai monté Don Juan, c'est une question que je ne m'étais pas posée. Il est étrange, assurément, de demander à un comédien qui aime Molière pourquoi il joue ses pièces, aussi étrange que de demander à un laboureur pourquoi il laboure, à un joueur les raisons de sa passion pour le jeu, aussi étrange que de demander à un assoiffé pourquoi il boit. Pourquoi ? Tous les pourquoi que je pourrais trouver, et je n'en trouve aucun à moi-même, tous les pourquoi seront faux. Pourquoi ai-je monté Don Juan ? C'est une question pauvre, disons-le, pour un thème aussi riche. Toutes les raisons que nous donnons à nos actes sont d'ordinaire tendancieuses, choisies dans un souci de justification et de correspondance. Elles travestissent et dénaturent nos sentiments. Si je devais donner des explications, elles seraient inconsciemment mensongères et volontairement incomplètes. Les déclarations que je pourrais faire, j'en suis sûr, seraient loin de satisfaire aux exigences de la vérité. S'il me fallait donner des raisons au choix que j'ai fait de Don Juan, je ne pourrais que fournir des alibis pour solliciter votre sympathie ou pour implorer mon acquittement. Ce n'est pas ici un prétoire. Il se constituera lundi prochain au théâtre de l'Athénée quand le rideau se lèvera sur cette merveilleuse et terrible pièce, lorsque la critique avec le public dira son jugement. En attendant, pour apaiser votre curiosité, je ne puis vous offrir que des allégations ou des excuses aussi fausses que celles que fournissent les inculpés, les passionnés, les enfants pris en défaut ou les amoureux. Bref, tous ceux qui agissent par élan et par goût et qui n'examinent leurs décisions et ne parlent de leurs actes que lorsqu'ils veulent les justifier. Dire pourquoi j'ai monté Don Juan ne saurait éclairer personne, ni vous, ni moi-même. Je ne m'étais jamais posé la question, et sans Francis Ambrière, Dieu m'est témoin que je ne me la serais jamais posée. J'ai tenté cependant, avec conscience et probité, de répondre à l'invitation qui m'était faite. Disons-le, c'est une recherche sans objet et sans utilité pour aborder une telle œuvre. Mais au cours de cette amère exploration, j'ai trouvé une question plus vraie, celle qui probablement peut contenir toutes les autres, y compris la question qu'a posée Francis Ambrière. Posons donc cette question en manière de réponse. Pourquoi joue-t-on peu Don Juan ? Pourquoi a-t-on rarement monté cette œuvre de Molière ? Pourquoi cette pièce n'a-t-elle jamais réussi ? Tout ce qui peut nous préoccuper me semble contenu, je crois, dans le raccourci de ces questions. Pourquoi a-t-on rarement monté le Don Juan de Molière ? Ceci est une question précise. Elle oblige à dire d'abord le Don Juan de Molière. Il y en a d'autres. Il y a de nombreux Don Juan. Il y en a environ 150. L'habitude de penser à d'autres pièces que celles de Molière persiste étrangement chez les gens de théâtre, chez les spectateurs, chez les critiques, comme chez les comédiens. Celui de Molière, le Don Juan de Molière, disons-le, compte en effet peu de partisans. dès son apparition, l'œuvre eut des auditeurs sournois. Elle recruta des fidèles et des spectateurs. Elle eut des spectateurs moins occupés de l'entendre que d'alimenter leur parti. Elle eut d'acharnés détracteurs. Et l'heureux destin des autres Don Juan que celui de Molière, leur pérennité, leur longévité, leur réputation témoignent de l'opposition faite à la pièce de Molière, de la confusion établie à son propos et dont il conviendrait de trouver les raisons. L'enquête à faire autour de Don Juan offre une extrême simplicité. Elle m'a paru privée d'énigmes. Si nous en trouvons aujourd'hui, c'est sans doute qu'elles y furent apportées. Comme Tartuffe, Don Juan a passionné le public et les gens de théâtre. C'est une pièce qui saisit étrangement l'esprit. Le 13 février 1665, deux jours avant la première représentation de Don Juan, Loret, le grand informateur de l'époque, publie dans sa gazette rimée une candide avant-première. L'effroyable festin de Pierre, si fameux, déjà, si fameux par toute la terre, et qui réussissait si bien sur le théâtre italien, va commencer l'autre semaine à paraître sur notre scène pour contenter et ravir ceux qui ne sont point paresseux de voir ce sujet admirable et lequel est, dit-on, capable, par ses beaux discours, de toucher les cœurs de bronze et de rocher, car le rare esprit de Molière l'a traité de telle manière que les gens qui sont curieux du solide et beau sérieux, s'il est vrai ce que l'on en compte, sans doute y trouveront leur compte. Et touchant le style enjoué, plusieurs m'ont déjà avoué qu'il est fin à son ordinaire et d'un singulier caractère. Loret annonce également les superbes machines et presse les amateurs d'y aller. Voici les promesses d'un spectacle exceptionnel. Ceux qui ont vu les répétitions, affirme Loret, en pensent le plus grand bien. Outre cette attraction particulière des machines et des changements à vue qui ont toujours entretenu le succès de cette pièce, il signale que le texte est capable, par ses beaux discours, de toucher les cœurs de bronze et de rocher. C'est du solide et beau sérieux. Et il ajoute, ainsi, pour mieux s'en assurer, soit au jour gras, soit en carême, que chacun l'aille voir soi-même. 15 février 1665. Première représentation de Don Juan ou le festin de Pierre, pièce nouvelle de Monsieur de Molière. A noté sur son célèbre registre le comédien Lagrange. Loret vient de nous le dire, le sujet n'est pas neuf, il a fait la fortune du théâtre italien et de cette troupe qui partage encore maintenant avec Molière la scène du théâtre du Palais-Royal. Depuis 10 ans peut-être, les Parisiens vont chez les Italiens voir cette pièce. C'est un scénario fourni ou revu par Tiberio Fiorelli, de son nom véritable Scaramouche. Il y a 6 ans, au Petit Bourbon, les précieuses ridicules et l'étourdie ont habité déjà sous le même toit que le festin de Pierre des Italiens. Molière, attentif aux interprétations de Scaramouche, a sans doute suivi ces représentations et peut-être rêvé sur ce thème singulier. 2 autres comédiens avant Molière ont doté d'un festin de Pierre le répertoire de leur théâtre. D'abord Pierre de Dorimont, de la troupe des comédiens de Mademoiselle de Montpensier, donne en 1659. 6 ans avant, avec succès, le festin de Pierre ou le fils criminel. Presque aussitôt après, l'acteur De Villiers, de la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, écrit à son tour le festin de Pierre ou le fils criminel. C'est un plus grand succès encore. Ces deux pièces sont des spectacles à sensation avec changement de décor, trucs dramatiques, feux d'arc-en-son qui font merveille pour le public. Ce ne sont pas des œuvres fort originales, elles se sont nourries au scénario des Italiens qui est dérivé lui-même de pièces italiennes. Quelques années auparavant, en effet, vers 1650, à peu d'intervalle, il y a 3 convives de Pierre qui ont paru. 3 convitato di Pietra, d'abord celui de Giacinto Andrea Cicognini, ensuite celui de Perucci, Et enfin, en 1652, celui d'Onofrio Giliberto de Solofra. Dorimant et Villiers s'étaient servis de ses œuvres. Ils les utilisèrent avec désinvolture et maladresse. Le convive de Pierre, par exemple, par une plaisante confusion, devient l'invité du seigneur Pierre. Car le commandeur, dans le tombeau duquel Don Juan ira dîner, se nomme en effet maintenant Don Pierre. Dorimant et Villiers ont fait d'un seul Pierre deux coups. Mais le thème vient de plus loin. Les Italiens ne sont pas les inventeurs de cette pièce. Bien auparavant, en 1613, le religieux espagnol Gabriel Téllez, moine de la Merci, plus connu sous le nom de Tirso de Molina, donne au théâtre parmi les 700 ou 1500 pièces qui composeront son œuvre, on n'en sait plus le chiffre exact, El burlador de Sevilla, y convidado de Piedra, le trompeur de Séville et l'invité de Pierre. C'est une œuvre fort belle. Est-elle née d'une aventure contemporaine, de l'histoire d'un débauché célèbre? Maintes versions circulent là-dessus, toutes également passionnées. Les exaltations mystiques et les provocations anticléricales s'y croisent et s'y conjuguent. Molière a-t-il connu la pièce de Tirso de Molina? Ça n'a pas grande importance, mais les commentateurs disent qu'il l'ignora. À sa mort, il y a bien dans l'inventaire de ses livres de nombreuses pièces de théâtre espagnoles, mais les titres n'en sont pas relevés. L'espagnol était une langue que Molière pouvait connaître. Peut-être des comédiens venus d'Espagne ou des voyageurs lui avaient-ils parlé de la pièce. Les échanges étaient fréquents entre la cour de France et la cour d'Espagne à cette époque, et le récent mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse amplifiait ces relations. Peut-être Molière avait-il aussi entendu parler de Don Miguel Magnara, Vincentello di Lecca, d'un gentilhomme originaire de Corse, célèbre par ses débauches, et dont l'éclatante renonciation au monde avait ému les habitants de Séville quelques années auparavant, vers 1656. Peut-être connaissait-il d'autres faits, d'autres œuvres oubliées de nous, peut-être même ignora-t-il tout cela. Il n'en avait d'ailleurs nul besoin. Peut-être n'a-t-il pas connu non plus un ateista fulminato, un athée foudroyé, arrivé récemment d'Italie. En tout cas, Dorimant, lui, en a tenu compte, car son Festin de Pierre ou Le Fils criminel, écrit en 1659, devient en 1665, au moment où Molière écrit le sien, le Festin de Pierre ou l'athée foudroyé. Molière, en choisissant le sujet de Don Juan, traite un sujet en vogue. Le public court à chaque représentation que les troupes en donnent. Les phrases sacrilèges n'inquiètent personne. L'athéisme du héros, les conversations qui s'échangent entre la statue de Pierre et le gentilhomme ne scandalisent pas. Tout se résorbe et tout s'arrange au dernier tableau par les flammes de la résine et l'ouverture d'une trappe qui conclut la soirée par une damnation moralisatrice. Disons-le franchement, tout y est puéril et déshonnête à souhait. On ne saurait être plus innocent dans le dévergondage et l'impiété. Ce n'est pas, ce ne sera pas le sujet de Molière. Que les comédiens de sa troupe aient voulu, comme on le prétend, compter dans leur répertoire une pièce aussi lucrative, aussi attrayante, qu'ils aient pressé leur chef de troupe d'écrire à son tour un Festin de Pierre, c'est possible, c'est probable, mais débattre ces questions est en dehors de ce qui nous occupe et qui est proprement le génie de Molière. Et ce genre de supposition ou de recherche qui prétend éclairer le débat contribue plutôt à égarer l'esprit. Mesdames, Messieurs, une pièce véritable, n'est rien autre d'abord qu'une nécessité interne pour celui qui l'écrit. Une impérieuse délivrance pour celui qui est soudain hanté par une idée ou un sentiment dramatique. C'est de cette délivrance qu'il est question ici. De quelle délivrance est faite Don Juan? Quelle libération nous apporte la pièce? Que nous délivre-t-elle à nous, spectateurs ou comédiens? Au lieu d'une réponse, je crois que c'est une question qu'elle nous apporte, une question qu'elle nous pose. À un thème détrempé jusqu'ici dans le comique et le burlesque, à une histoire truffée de lazzi et de plaisanteries douteuses, Sur un sujet scabreux, Molière donne soudain une authenticité profonde et un sens véritable. Saisi par la terrible angoisse que ses pitreries esquivent ou qu'elles veulent couvrir, rejetant la farce et les feintes, Molière formule le sujet qu'elle cache. À l'égal de Pascal ou de Bossuet, il pose au spectateur l'interrogation véritable d'un moraliste véritable. C'est l'angoisse de l'homme vis-à-vis de son destin. C'est de salut et de damnation qu'il est question dans le Don Juan de Molière. Certes, sa pièce accuse de nombreuses sources. Elle témoigne d'éléments épars, d'emprunts épars. Elle vient à un moment que les biographes de Molière considèrent comme très particulier, par l'interdiction dont Tartuffe vient d'être l'objet 8 mois auparavant, mais ceci n'explique en rien l'originalité vigoureuse, l'extraordinaire qualité de l'œuvre. Avec des matériaux déjà utilisés et appauvris, avec des personnages fanés, Molière, dans la généalogie de l'art dramatique, donne naissance à un héros nouveau. Dans ce merveilleux XVIIe siècle, Don Juan, en effet, comme Don Quichotte, naissent en Espagne, presque à la même heure. Et l'un comme l'autre n'ont aucun antécédent dans la littérature. C'est Molière qui donnera à Don Juan sa réputation universelle. C'est par lui, par Molière, que ce héros occupe depuis toujours les esprits. Et c'est pourquoi cette pièce nous occupe encore aujourd'hui. Peut-être est-ce là une des raisons inconnues et souterraines qui me l'ont fait choisir. Ce qui inquiète et passionne l'humanité, c'est la naissance et le passage des dieux, des saints et des héros.
La conférence de Louis Jouvet ne se termine pas ainsi. Un extrait de la pièce a dû être joué par Mademoiselle André Clément et d'autres comédiens pour les invités de la conférence. Puis Louis Jouvet revient pour dire qu'il ne parlera pas du festin de pierre de Thomas Corneille et pour l'évoquer malgré tout.
Messieurs, si vous le voulez bien, nous écarterons Thomas Corneille du débat. Et je me permettrai de vous remercier aussi de l'accueil favorable que vous avez fait et à Molière et à Mademoiselle André Clément. Je l'attendais, je vous en remercie. Ce sera, si vous voulez, peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai monté Don Juan. Entrez, mesdames et messieurs, prenez vos billets. Nous donnerons aujourd'hui, par extraordinaire, une représentation du festin de pierre ou l'athée foudroyé. Comédie en 5 actes du grand Corneille. Avec changement à vue, engloutissement et pluie de feu au 5e acte. Le citoyen d'Autry jouera Don Juan avec toute sa garde-robe. Au 1er acte, habit, veste et culotte en satin, vert pomme, brodé d'or et de filaments. Au 2e acte, qui se passe à la campagne, habit, gorge de pigeon, doublé saumon, avec la veste gris de souris effrayée. Au 4e acte, habit mordoré pour recevoir le commandeur, avec la veste de toile d'argent, jabot et manchette de dentelle des Flandres. Faites voir l'habit du 4e acte. Au 5e acte, il se repent tout en velours noir. Mesdames, messieurs, la causerie que je viens de faire n'a pas d'autre sens, n'a pas plus d'esprit ni de prétention que la parade ou l'exhortation que je viens de vous lire et que débitait, encore plus fort que moi, le comédien Salé en 1790 pour encourager les spectateurs à venir entendre la pièce et à entrer dans sa boutique. C'était le théâtre des Associés sur le boulevard du Temple qui s'appela quelques années plus tard le théâtre des Amusements Comiques. Pour nous, ce sera au théâtre de l'Athénée. Il est dommage que Salé, qui faisait défiler de si superbes costumes au cours de son boniment pour appâter la clientèle, n'ait pas connu Christian Bérard et qu'il n'ait pas pu profiter et bénéficier des inventions qu'il a apportées à notre mise en scène. Je me sens en tout cas à cette heure dans l'impossibilité totale, une impossibilité physique de vous parler de Don Juan autrement que je l'ai fait. Les comédiens que vous venez d'entendre sont comme moi. Il leur aurait été impossible de dire devant vous le texte qu'ils n'ont pas encore proféré publiquement. Ce texte appartient encore à la pièce. Ils ne pourront le dire vraiment que lorsque, revêtus de leur costume, ils auront été sur la scène une première fois et qu'ils auront créé en eux et par le public le sens et la résonance de ce texte extraordinaire. Ceux que vous avez entendus, Mademoiselle Dominique Blanchard, Mademoiselle Yvette Etiévant seront Mathurine et Charlotte. Mademoiselle André Clément sera Elvire. C'est par supplication que j'ai obtenu d'elle qu'elle dise une partie de sa tirade du quatrième acte, et je l'en remercie. Pierre Renoir nous fait la faveur de jouer Don Luis, le père de Don Juan. Michel Echeverry sera Don Alonze. Rieger et Léo Lapara servent diversement l'œuvre de Molière avec tous nos camarades de l'Athénée. C'est Henri Sauguet qui a composé la musique. Fernand René jouera Sganarelle et moi-même, en qualité de Don Juan, nous vous convions avec Fernand René et tous nos camarades, nous vous convions bien humblement à venir à notre spectacle. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, voilà pourquoi, je crois que je peux le dire à Francis Ambrière, j'ai monté Don Juan.
Conférence des Annales, Don Juan par Louis Jouvet, première diffusion sur la chaîne nationale le 19 décembre 1947. On sait donc désormais pourquoi Jouvet avait monté Don Juan. Mais comment interpréter le Molière des précieuses ridicules? De mille façons peut-être, et chaque metteur en scène peut donner ses conseils ou ses ordres aux comédiennes et aux comédiens. Pour Madame Simone, avant toute chose, un bon conseil, il faut travailler sa respiration une demi-heure par jour. Puis, dès que vous jouez Molière, vous devez faire très large. Un peu sévère, Madame Simone? Comme peut l'être, comme doit l'être un professeur. En tout cas, voici une émission utile pour nous, lecteurs, et bienvenue pour elles et eux, comédiennes et comédiens d'aujourd'hui. L'art du comédien, les précieuses ridicules par Madame Simone, première diffusion sur la chaîne nationale le 13 novembre 1956.
La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Berthe Chernel travaille le rôle de Madelon des Précieuses Ridicules de Molière, la scène 4, avec le concours de Louise de Braquel et de Jean-Louis Calvet, qui lui donne la réplique dans Catos et Gorgibus. Réalisation Georges Godbert.
Alors nous reprenons.
Berthe Chernel va travailler le rôle de Madelon dans Les Précieuses Ridicules de Molière. Nous prenons à la scène 4. Au moment où les deux précieuses ont maltraité les charmants hommes qui venaient pour les épouser, pour leur faire la cour, et où leur père le fait des reproches mérités. Alors le père, c'est M. Calvet, que vous connaissez bien, qui est toujours prêt à donner les répliques à ses camarades, toujours parfait, toujours complaisant, toujours plein de talent. Mademoiselle Chernel qui joue Madelon, et Mademoiselle Louise de Braquel qui joue Catos. Alors on vous écoute. Vous allez aller d'un trait jusqu'à la fin de la grande tirade de Madelon. Alors là, nous nous arrêterons et nous travaillerons.
Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari?
Et quelle estime, mon père! Voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là?
Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne.
Et qui trouvez-vous hardi?
La belle galanterie que la leur. Quoi? Débutez d'abord par le mariage.
Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Et qu'il n'y a rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions?
Ah, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous oir parler de la sorte. Et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses.
Mais je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là.
Mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane, et qu'Aronce de plein pied fut marié à Clélie.
Que me vient conter celle-ci?
Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre, le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir à la promenade ou dans quelque cérémonie publique la personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami. Et sortir de là, tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante et qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, et qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur et qui, pour un temps, bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela, viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements. Et ce qui s'ensuit, voilà comme les choses se traitent dans les belles manières. Et ce sont des règles dont en bonne galanterie on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage et prendre justement le roman par la queue, encore un coup mon père, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait.
Continuez.
Quel diable de jargon entends-je ici? Voilà bien du haut style.
Et en effet mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir les gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte du tendre et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis verts sont des terres inconnues chez eux. Ne voyez-vous pas que toutes leurs personnes marquent cela et qu'ils n'ont point cet air qui donne d'abord une bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de ruban, mon Dieu! Quels amants sont cela? Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation! On n'y dure point, on n'y tient pas! J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leur autre chose ne soit assez large.
Mais je pense qu'elles sont folles toutes deux et je ne peux rien comprendre à ce baragouin. Kathos et vous, Magdalon?
Mais de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement.
Comment, ces noms étranges? Ne sont-ce pas vos noms de baptême?
Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille aussi spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Kathos ni de Madelon? Et ne m'avouerez-vous pas que ce serait assez d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde?
Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là. Et le nom de Polyxène, que ma cousine a choisi, et celui d'Aminte, que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord.
Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens, et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Je me lasse de vous voir sur les bras, et la garde de deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge.
Pour moi, mon oncle, tout ce que je puis vous dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu?
Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman et n'empressez point tant la conclusion.
Il n'en faut point douter, elles sont achevées. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pourtant, chez toutes sortes de discours, ou vous serez mariées toutes deux avant qu'il soit peu, ou ma foi, vous serez religieuses. J'en fais un bon sermon.
Très bien. Maintenant, nous allons travailler ça.
Eh bien, voyez-vous, l'avantage de jouer des chefs-d'œuvre, c'est que même quand ça n'est pas tout à fait ça, c'est tout de même intéressant. Hein? On dit toujours, ah, faut pas se mesurer au grand texte et ceci et cela. Ben, c'est très avantageux de se mesurer au grand texte. Parce que c'est pas mal ce que vous faites, mais enfin, c'est tout de même très très loin de la perfection, je n'ai pas besoin de vous le dire. Alors maintenant, nous allons voir ça dans le détail. Voyez-vous, il y a une première chose générale qu'il faut que vous sachiez. Toute la pièce, c'est une comédie, mais c'est une comédie qui touche très très légèrement à ce qu'ont été les grandes farces de Molière, n'est-ce pas ? Ça n'a tout de même aucun rapport avec les femmes savantes comme ton, n'est-ce pas ? Par conséquent, il faut que ce soit beaucoup plus haut en couleur que ça. C'est trop raisonnable ce que vous faites. C'est une satire, et c'est une satire extrêmement spirituelle et fine, mais malgré tout, c'est une comédie qui approche un peu de ce qu'étaient les grandes farces de M. de Pourceaugnac. Alors, il faut tout de même que ce soit plus haut en couleur, à mon avis. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ce soit moins raisonnable. Ça, c'est la première observation qu'il faut que je vous fasse. La seconde, c'est que vous laissez tomber votre mouvement constamment. Ça, nous allons le voir dans le détail, n'est-ce pas ? Dans la grande tirade de Madelon, là, il y a une espèce de montée, comme toujours, n'est-ce pas ? Quand il y a une succession d'arguments, ou dans un tableau, une succession de couleurs, ça veut dire, naturellement, que l'auteur insiste dans ce qu'il veut prouver, et il faut que le mouvement accompagne cette décision de l'auteur, jusqu'au moment de la conclusion qui est dit, voilà comme les choses se passent. Alors, quand vous allez dans des couleurs plus vives, dans ce que je vous demande, c'est-à-dire une chose qui est plus près, non pas de la farce, mais tout de même de la chose, dirais-je, plus poussée, vous allez tout naturellement être dans le ton et vos couleurs viendront d'elles-mêmes, tandis que vous essayez de nuancer ça comme une chose plus psychologique qu'elle n'est. Ça n'est pas ça, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de plus fort en couleur que ce que vous avez fait. Est-ce que je me fais comprendre ? Bien. Alors maintenant, nous allons prendre ça dans le détail. Et alors, voyez-vous, mademoiselle Braquel était plus dans le ton. Parce que vous avez fait quelque chose qui était plus outré, enfin, plus comique.
Mais je pense que je manquais un peu de mouvement aussi.
Vous avez manqué aussi de mouvement. La scène n'a pas été jouée dans son mouvement. Alors maintenant, nous allons reprendre ça. Alors dites-moi, monsieur Calvé, avec vos 25 ans, vous faire un homme de 55. Alors allez-y carrément, vous ne craignez rien. Vous. Allez.
Je le corse davantage.
Oui, oui, oui.
Plus vieux.
Et puis vous êtes furieux contre vos filles, n'est-ce pas ? Ah, il est bien nécessaire, vraiment, d'être là à vous graisser le museau. Qu'est-ce qu'il dirait des instituts de beauté alors qu'il est ? Allez.
Ah, il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau.
C'est ça, et c'est large.
Oui.
Dites-vous que dès que vous jouez Molière, vous devez jouer extrêmement large. Ce sont des tableaux faits à grande touche, n'est-ce pas ? Il est bien nécessaire de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Et tous les mots comptent, encore une fois.
Dites-moi un peu ce que vous avez fait avec ces messieurs.
Ah, dites-moi un peu ce que vous avez fait avec ces messieurs.
Dites-moi un peu ce que vous avez fait avec ces messieurs.
Maintenant, il veut savoir ce qui s'est passé. Il leur présente deux hommes charmants. Elle les envoie promener sous les prétextes que nous allons voir.
Dites-moi un peu ce que vous avez fait avec ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Ne vous avais-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari ?
Et quelle estime mon père ?
Alors là, c'est comme si on lui marchait sur le pied. Et quelle estime mon père, enfin ! Épouser ces gens-là, mais vous n'y pensez pas. N'est-ce pas ? C'est très sincère. Elles sont ridicules, mais elles sont tout à fait sincères. Il faut une pointe de ridicule dans tout ça. Et c'est l'excès qui vous le donnera, n'est-ce pas ? Quand vous dites ça, vous avez l'air de dire, écoutez, tout de même, ce sont des gens mal élevés qui sont venus. Vous avez l'air de dire une chose raisonnable, tandis que c'est une chose déraisonnable. Et ça, ça tient aussi un peu parce que vous avez une voix très sage. Vous avez une voix raisonnable, vous avez une voix sage. Je ne sais pas si c'est tout à fait votre emploi de jouer ça. À la vérité, ça doit être joué par des soubrettes. Faites-le tout de même, ce sera un très bon exercice pour vous.
Et quelle estime, mon père !
Voilà !
Voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là ?
Voilà !
Le moyen, mon oncle !
Ah non, ne laissez pas tomber ! Le moyen, au contraire, vous renchérissez ! Elle a raison, le moyen, mon oncle !
Une fille un peu raisonnable !
Alors, voyez comme le terme est bon, son argument, c'est que ça n'est pas raisonnable. Une fille un peu raisonnable ! Alors que tout ce qu'elle dit est fou, n'est-ce pas ?
Oui. Le moyen, mon oncle.
Le moyen, mon oncle. Il faut que vous renchérissiez, n'est-ce pas ? Le mouvement monte, le mouvement ne cesse de monter jusqu'à la fin de la tirade de Madelon.
Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne.
Mais qui trouvez-vous hardi ?
Mais alors lui, et qu'est-ce qu'il y a contre eux ?
Mais qui trouvez-vous hardi ?
Oui, large, large, Calvin, n'est-ce pas ? Et qui trouvez-vous hardi ?
Mais qui trouvez-vous hardi ?
La belle galanterie que la leur.
Voilà.
Quoi ? Débutez d'abord par le mariage.
Mais par où veux-tu donc qu'il débute ? Par le concubinage ? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi ? Es-tu rien de plus obligeant que cela ?
Alors, n'escamotez pas vos mots, ils sont importants.
N'est-ce pas un procédé ?
Il n'y a rien de plus obligeant que cela. Enfin, qu'est-ce que ça signifie ?
N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi ? N'est-il rien de plus obligeant que cela ? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions ?
Oh, mon père ! Ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte.
Voilà, alors, voilà, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que ce sont les précieuses ridicules. Vous aviez trouvé le temps, vous retombez dans quelque chose d'assez raisonnable, n'est-ce pas ? Ça vous est difficile, mais c'est une bonne étude, justement. Ah, père, n'est-ce pas vraiment comme s'il lui faisait atrocement mal physiquement ? Ce que vous dites là est du dernier bourgeois, n'est-ce pas ? Ça me fait honte de vous entendre lui parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses, enfin, n'est-ce pas ? Il lui fait pitié en même temps.
Reprenez et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions ?
Oh, mon père !
Voilà.
Ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses.
Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée. Et que c'est faire un honnête gens que de débuter par.
Mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et qu'Aronce de plein pied fut marié à Clélie.
Voilà.
Que me vient conter celle-ci ?
Mon père. Voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures.
Voilà.
Il ne faut aucun amant.
Alors maintenant, vous lui faites la leçon, n'est-ce pas ? Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, vous arrivez à voilà, n'est-ce pas ? Alors évidemment, c'est ce qu'étaient en effet les précieuses du temps, où il y avait la carte du tendre et tout ce que nous savons à quoi elle va faire allusion, n'est-ce pas, le grand Cyrus et tout ce qui... Alors, il faut qu'un amant, pour être agréable, il ne faut pas faire ceci, il faut ensuite faire cela, puis on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Voilà comment il faut s'y prendre, n'est-ce pas ? Alors vous lui faites bien la leçon, en plusieurs points. Vous avez bien commencé, reprenez-la. Mon père, mais voilà ma cousine qui vous dira aussi bien quoi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Vous n'êtes pas du tout courant, je vais vous y mettre. Il faut d'abord qu'un amant fasse ceci, qui passe seul. Alors, prenez ça.
Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures.
Bien.
Il faut qu'un amant, pour être agréable...
Alors, voyez-vous, il faudrait que vous trouviez moyen de changer d'abord votre ton. Pour qu'on sente bien qu'après lui avoir fait ce reproche, vous lui faites la leçon, n'est-ce pas ? Il y a deux choses. Il y a deux tons très différents. Mon père, mais voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant fasse d'abord ceci, fasse d'abord cela, n'est-ce pas ? C'est deux tons très différents. Il y a le reproche, puis il y a la leçon.
Mon père ! Voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver.
Jamais arriver, on ne peut jamais...
Que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures.
Bien.
Il faut qu'un amant,
bien,
pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments. Pousser le doux, le tendre, le...
Alors, n'est-ce pas, tout ça est très amusant, les différents jeux. Pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes.
Il faut...
Comme si vous lui donniez une leçon de mathématiques, n'est-ce pas ?
Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments. Pousser le doux, le tendre...
Ah non, respirez bien entre le doux, le tendre... Et le passionné, n'est-ce pas ?
Pousser le doux, le tendre et le passionné.
Bien.
Et que sa recherche soit dans les formes.
Bien.
Premièrement, il doit voir au temple ou à la promenade ou dans quelque cérémonie publique la personne dont il devient amoureux.
C'est ça. Alors, vous lui faites une leçon, mais cette leçon, ça a l'air contradictoire ce que je vais dire là, mais la leçon est faite par une personne tout de même qu'on tourne en ridicule. N'oubliez jamais ça, n'est-ce pas ? Elle est toujours dans son tort, enfin, je veux dire psychologiquement, n'est-ce pas ? L'auteur a voulu qu'elle soit dans son tort et que ce qu'elle dise soit toujours quelque chose d'un peu ridicule. Alors, il faut que ça apparaisse, il faut que ces nuances apparaissent, cependant, que vous lui faites la leçon, n'est-ce pas ? Il faut d'abord qu'il la voie au temple, ou à la promenade, ou bien dans un autre lieu quelconque, dans un jardin. Il faut, n'est-ce pas ? Il y a toujours une nuance qui est une nuance de ridicule. C'est tout de même une satire, c'est une critique, tout au moins.
Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade,
bien.
Ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux.
Bien.
Ou bien être conduit fatalement.
Ah, ou bien être conduit fatalement, n'est-ce pas? N'oubliez pas que le mot fatalement a une importance.
Ou bien être conduit fatalement chez elle, par un parent ou un ami, et sortir de là, tout rêveur et mélancolique.
Voilà. Mais sous prétexte oblique mélancolique, ne perdez pas votre mouvement.
Et sortir de là, tout rêveur et mélancolique.
Voilà.
Il cache un temps sa passion.
Alors voyez-vous, c'est là que vous avez une perte de mouvement, n'est-ce pas? Et rêveur et mélancolique, il cache un temps sa passion, n'est-ce pas? Tout ça s'enchaîne. Elle sait ça absolument comme sa table de multiplication. Reprenez mon petit enfant, vous allez reprendre là, n'est-ce pas? Il faut qu'un amant... Alors, vous voyez bien, en somme, ce que je vous demande, n'est-ce pas?
Oui, madame.
C'est une personne qui fait la leçon. C'est une personne qui a une suite d'arguments à sa disposition. Elle n'a pensé qu'à ça. Elle lit ça. Elle en est imprégnée. Elle le sait par cœur. Et alors, elle fait la leçon à son père. Mais c'est une personne qui fait une leçon absurde. Alors, il faut que nous sentions les deux choses. N'est-ce pas? D'un côté, le ton d'une personne qui veut enseigner. Et d'un autre côté, un enseignement absurde. Il faut qu'un amant...
Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments. Pousser le doux, le tendre et le passionné.
Ça respirait bien entre les trois choses.
Pousser le doux, le tendre et le passionné.
Bien.
Et que sa recherche soit dans les formes.
Bien, voilà, vous y êtes.
Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux. Ou bien être conduit fatalement chez elle, par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique.
C'est ça. Alors voyez-vous, je voudrais que vous ne perdiez pas votre mouvement sur rêveur et mélancolique, mais que tout de même ce soit quelque chose et qui soit plus singulier, enfin, n'est-ce pas, qui donne davantage l'expression du sentiment, n'est-ce pas? Tout rêveur et mélancolique, et puis alors, n'est-ce pas? Voyez-vous, je n'ai pas perdu de temps, mais tout de même,
mais
la nuance est là, n'est-ce pas?
Ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet.
Alors voyez-vous, vous n'avez pas retrouvé votre mouvement parce que vous n'avez pas respiré. Est-ce que vous respirez bien? Êtes-vous une personne qui respire bien d'où il faut? Venez
je
ici.
Crois, je sais comment je dois le faire.
Vous savez comment vous devez le faire? Bien, ben c'est déjà beaucoup,
oui.
N'est-ce pas? Alors voyez-vous, c'est toujours la même chose. Quand vous respirez bien, vous ne perdez aucun temps en respirant. Parce que comme vous avez la respiration que vous devez avoir dès le début, vous faites un appel au moment où vous dites « il », n'est-ce pas? Et à ce moment-là, alors par le fait que vous avez le souffle qu'il faut, votre mouvement ne tombe pas, tandis que là, il est tombé, n'est-ce pas? Vous avez dit « rêveur et mélancolique », il cache, n'est-ce pas? Tout rêveur et mélancolique, il cache. Voyez-vous, j'ai respiré, je n'ai pas perdu de temps. Vous avez vu?
Oui, oui, oui.
Alors, faites-moi ça.
Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux. Ou bien être conduit fatalement chez elle, par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache...
Ah non, 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 vous enchaînez. Vous enchaînez au lieu de respirer. Vous dites tout rêveur et mélancolique. Il cache, non? Tout rêveur et mélancolique. Il cache. Et où? J'ai accentué ma respiration pour vous montrer le moment où je la prenais. Faites-le d'abord en prenant votre temps pour respirer. Et puis après, vous ferez votre respiration plus rapide.
Ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache...
Mais non, elle ne veut pas respirer. C'est curieux comment on a du mal à faire respirer les jeunes comédiens, j'ai remarqué. Je crois que c'est parce que vous êtes probablement un petit peu anxieux ou énervé au moment où vous travaillez, n'est-ce pas? Alors qu'au contraire, pour bien respirer, il faut être détendu. Mais il faut que votre respiration arrive à être absolument mécanique, n'est-ce pas? Alors travaillez-la en dehors même des textes, n'est-ce pas? La vérité, c'est qu'aucun de vous ne travaille assez, c'est toujours la même chose, parce que vous faites 36 choses, parce que vous êtes obligé de les faire, c'est bien ce qu'est la vie maintenant. Mais vous devriez tous travailler votre respiration une bonne demi-heure tous les jours. Parce que c'est une clé, c'est comme j'insiste toujours pour votre articulation, votre accentuation, ces trois choses sont liées. Vous ne pouvez rien faire avec force, avec nuance, si vous n'avez pas une respiration libre, C'est elle qui vous donne la liberté. Parce que sans ça, vous êtes toujours à courir après votre souffle. Vous ne pouvez pas aller au bout de vos phrases. Vous ne pouvez pas aller au bout d'un mouvement. Vous n'avez pas la force de votre accentuation si vous n'avez pas un thorax absolument gonflé, rempli d'air. C'est comme un violon qui ne pourrait pas chanter par le fait qu'il n'aurait pas le creux qui est nécessaire pour la résonance des cordes. Je ne vous demande pas évidemment de savoir faire d'un coup ce que moi j'ai fait au bout de 40 ans. Seulement, j'étais arrivée tout de même à le faire assez vite parce que je le travaillais tous les jours une bonne demi-heure. Il faut que vous le fassiez, c'est très important. C'est une clé, je vous le demande à tous. Que vous jouiez la comédie, que vous jouiez la tragédie, que vous jouiez les soubrettes, que vous jouiez les mères nobles ou les pères nobles, c'est la même chose. C'est à la base, n'est-ce pas ? Il faut bien respirer. Parce que vous n'êtes à l'aise que comme ça. Alors, nous reprenons ça.
Il le faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné.
Vous le voyez, il n'a pas respiré.
Oui, j'ai pas respiré, je m'en suis rendu compte tout de suite.
Alors faites-le parce que ça vous obligera. Contraignez-vous à le faire. Prenez-en l'habitude. Il faut qu'un amant... Mais moi, je respire tout le temps, vous savez. Je respire pendant que je dis des vers à l'intérieur d'un verre. Et c'est ça qui permet qu'on étire l'alexandrin, qu'on fasse des longs coups d'archer. C'est ça qui permet. Mais pendant que je vous parle, je respire, tenez, je viens de respirer, vous ne l'avez pas vu. Si je vous montrais chaque fois où je respire, vous seriez étonné du nombre de fois où je respire. Là, je vous l'ai montré, vous voyez. Eh bien, il faut que vous arriviez à ça absolument. Ça, c'est une des bases, c'est une des choses essentielles de notre métier. Alors, reprenez maintenant. Et obligez-vous à respirer, même si je dois le voir et même si ça doit momentanément interrompre votre mouvement.
Oui, madame. Il faut qu'un amant...
Voilà, respire après, il faut. Il faut qu'un amant...
Il faut... Qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments.
Respirez.
Pousser le doux.
Respirez.
Le tendre.
Voilà.
Et le passionner.
Voilà.
Et que
et
sa
recherche. Faites-le avec aisance. Maintenant que vous l'avez fait.
Et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux. Ou bien être conduit fatalement chez elle.
Fatalement, c'est pas quelque chose de romanesque. Conduit fatalement.
Ou bien être conduit fatalement
voilà.
Chez elle, par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique.
Et respirer.
Il cache un temps sa passion.
C'est ça, mais par le fait que vous avez respiré, profitez-en maintenant. Ne respirez pas pour des prunes, n'est-ce pas?
Et sortir de là, tout rêveur et mélancolique. Hmm. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé. Et pourtant, ne manque pas de lui rendre plusieurs
voilà, bien, voyez-vous, il n'y a pas assez de mouvement là, n'est-ce pas? Il faut que vous soyez plus imprégné, plus passionné par tout ce que vous dites là, n'est-ce pas ? Au fur et à mesure où vous faites la description de ce qui se passe dans une aventure romanesque, telle qu'elle doit se dérouler à vos yeux, selon vos goûts, ça vous amuse, ça vous intéresse, ça vous passionne, ça vous trouble. Tout ça doit apparaître, n'est-ce pas ? Alors, quand vous commencez d'une façon assez calme et comme un docteur. Et puis, peu à peu, alors, vous vous prenez à votre jeu et tout ça devient de plus en plus animé, n'est-ce pas ?
Il cache un temps sa passion à l'objet aimé. Et cependant, lui rend plusieurs visites où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive.
Voilà, vous avez perdu du temps encore, voyez-vous. Il faut que ce soit beaucoup, beaucoup plus animé. Seulement, la pendule nous indique que nous avons terminé. Alors, et vous allez bien faire ce que je vous demande. C'est-à-dire vous dire que vous commencez un mouvement qui est dans un sentiment raisonnable et que peu à peu, vous vous animez jusqu'à une espèce de passion. Toujours un peu ridicule. N'oubliez pas le titre de la pièce. Voilà, mais enfin, vous avez bien travaillé, maintenant vous allez bien respirer, tout
merci
va aller tout seul.
Merci, madame.
La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Berthe Chernel travaillait le rôle de Madelon des Précieuses Ridicules de Molière, la scène 4, avec le concours de Louise de Braquel et de Jean-Louis Calvet, qui lui donnait la réplique dans Catos et Gorgibus. Réalisation Georges Godbert.
L'art du comédien, Les précieuses ridicules, par Madame Simone. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 13 novembre 1956. À la même heure, deux rendez-vous dans cette série de grands écrivains, grandes conférences. Tout d'abord, Mademoiselle Haïssé, par André Mauroy. Écrivaine, Mademoiselle Haïssé, oui, grand écrivain, épistolière. Rare, disons. Peu lu, très peu lu aujourd'hui. Mais peu importe, il est rare que la vie des écrivains soit si particulière. Commencer par être acheté à 4 ans sur le marché aux esclaves de Constantinople par un Français de 50 ans semble sans autre exemple connu. La vie de Mademoiselle Haïssé, sa correspondance, autant d'histoires d'amour. Le deuxième rendez-vous sera également avec une grande amoureuse, sur un autre registre, légèrement plus tragique, Phèdre, la Phèdre de Racine. Vous avez tous en tête, bien sûr, la scène 5 de l'acte 2. Relisez-la d'ici demain pour suivre les cours de Madame Simone. Grands écrivains, grandes conférences, Philippe Garbi, Clotilde Pivin, Olivier Dupré. Document INA, Véronique Jolivet. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr, à la page de l'émission, durant 1000 jours ou la podcaster pendant un an.